L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 18 mai 2026. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. À 6h, passé de 15 minutes à Bukavu et à Birere, dans la ville de Goma. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité dans cette édition du journal, un cas d'Ebola est confirmé dans la ville de Goma depuis hier dimanche 17 mai 2026, selon le communiqué du gouverneur du Nord Kivu sous la FCM23 rendu public. Du coup, les frontières avec les Rwandais dans cette partie du pays ont été fermées sur ordre des autorités rwandaises. Dossier complet à suivre dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, les CICR a pris en charge 723 blessés de guerre entre janvier et avril 2026 dans les trois hôpitaux qu'il appuie au sud Kivu. Mais depuis décembre 2025, le nombre d'hôpitaux qui reçoivent ce soutien a triplé suite à l'intensification des combats et l'augmentation du nombre des blessés par balle, nous dira la chef des opérations au CICR pour le sud Kivu dans cette édition du journal. Et en sport, Coupe du Monde 2026, les Léopards convoqués pour disputer cette compétition seront connus ce lundi 18 mai à travers les canaux officiels de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA. Voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin. Radio Mandeléo en plusieurs lettres, le journal en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Les postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et les Rwandais à partir de Goma au nord Kivu sont temporairement fermés depuis la matinée de ce dimanche 17 mai 2026. Ceci fait suite à la présence d'un cas confirmé d'Ebola dans la ville de Goma hier dimanche 17 mai 2026. Dans un communiqué rendu public, le gouverneur du nord Kivu sous la FCM23, Musanga Erasto, confirme ces cas dans la ville de Goma qui proviendrait de Bunia en province de l'Ituri, où une flambée des cas fait actuellement l'objet d'une prise en charge sanitaire renforcée. Le communiqué précise que dès la confirmation de ces cas, les autorités provinciales en coordination avec les services de santé et les structures médicales locales ont activé les mécanismes de riposte afin de prévenir toute propagation dans les zones sous l'administration de l'AFC-M23. Face à cette situation, le communiqué du gouverneur appelle à l'observance des mesures comme celle d'éviter tout contact physique avec des personnes présentant des signes suspects ou encore se laver régulièrement les mains avec les savons et éviter tout contact avec les liquides biologique. Le gouverneur du Nord Kivu sous la FCM23 rassure la population que des dispositions sont prises pour protéger les habitants et contenir rapidement cette menace sanitaire, peut-on lire dans ses communiqués. Et à Goma toujours, les deux principaux points de passage avec la ville rwandaise de Gisenyi, à savoir la grande barrière dite la corniche et la petite barrière sont concernés par la fermeture sur place. À la grande barrière située au centre-ville de Goma dans les quartiers les volcans, la mesure est effective. Plusieurs voyageurs congolais en partant pour les Rwanda, pour Kampala en Ouganda et vers les villes de Beni, Butembo et Bunia se sont retrouvés bloqués avec leurs bagages et marchandises. Selon les observations, seuls les CIGR rwandais sont autorisés à traverser la frontière pour rejoindre les Rwanda, tandis que les citoyens congolais se trouvant du côté rwandais peuvent entrer en RDC sans retour possible vers l'autre côté. Des cas suspects de Congolais en provenance d'Ouganda ont été signalés en transit au Rwanda en direction de Goma. À ce stade, seuls les nationaux sont autorisés à rentrer dans leur pays. Et au sud Kivu, suite à l'alerte sanitaire régionale liée à l'épidémie à virus Ebola, les dispositifs de prévention, de surveillance et de riposte sur toute l'étendue de la province sont renforcés à dater de ces jours. Dans un communiqué officiel rendu public et signé par le gouverneur des provinces sous la FCM23, Patrick Boussou-Wangui-Chombo, il est signalé qu'une task force multisectorielle est mise en place en vue d'assurer la coordination des efforts de prévention à cet effet. Les services sanitaires provinciaux en coordination avec les autorités administratives, sécuritaires et partenaires de la santé ont activé les mécanismes d'éveil épidémiologique dans les structures de la santé, dans les ports, aux postes et frontières, dans les marchés publics ou encore dans les moyens de transport, peut-on lire dans ces communiqués. Le gouverneur de province rassure la population que toutes les dispositions nécessaires sont prises afin d'assurer une réponse rapide, coordonnée et efficace contre toute menace sanitaire. Ainsi, il invite la population au calme, à la discipline et à collaborer avec les services sanitaires, au respect rigoureux des consignes sanitaires guerre, peut-on lire dans ses communiqués officiels. Et 24 heures après sa déclaration officielle comme 17e épidémie des maladies à virus Ebola dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que l'épidémie due à la souche Bundibugyo en RDC et en Ouganda constitue désormais une urgence de santé publique de portée internationale. Selon le communiqué rendu public samedi 16 mai, le directeur général de l'OMS a fondé cette décision sur plusieurs éléments, notamment les taux élevés de positivité des premiers échantillons testés, la propagation déjà documentée au-delà des frontières congolaises, ainsi que l'absence de vaccins ou de traitements approuvés contre cette souche spécifique. Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, cette épidémie ne remplit cependant pas à ce stade les critères d'une urgence pandémique. À la différence des souches Zaïre, rappelle l'Organisation mondiale de la santé, aucun vaccin ni traitement n'est disponible contre la souche Bundibugyo, ce qui complique significativement la riposte. Face à cette situation, l'OMS a adressé des recommandations précises aux pays touchés, activation des mécanismes nationaux d'urgence, renforcement du traçage des contacts, dépistage systématique aux points d'entrée internationaux, interdiction de tout déplacement des cas confirmés ou contacts et garantie d'enterrement sécurisé. Et chapitre santé toujours, plus de 10 cas de choléra ont été enregistrés dans les groupements des Bourra, les zones de santé de Walungu, en territoire qui porte le même nom, entre les 3 et les 13 mai de l'année en cours. L'alerte est du médecin directeur du centre hospitalier des Bourra, et le docteur Bienvenu Tshizungu, dans un entretien avec Radio Maindelo Alain Kabika.
Ces derniers expliquent que tous les cas ont été reçus et soignés au sein de sa structure malgré les problèmes liés à la rupture d'un tronc. Notre source ajoute que la quasi-totalité des malades proviennent des familles pauvres et d'autres sont des déplacés qui ont fui leur village à Muzinzi et Mulamba à cause de la guerre. Suite à cette situation, le médecin directeur du centre hospitalier de Bourale demande aux partenaires du secteur de la santé à venir en aide sa structure afin qu'elle poursuive la prise en charge des malades. Le docteur Bienvenu Tshizungu en parle.
Nous connaissons une rupture en intra parce que nous le prenons en charge avec des moyens de bord. On n'a pas quelqu'un qui vient en aide dans la prise en charge. Et même le BCZ ou la zone de santé connaît des ruptures en entrant, et là j'ai parlé des liquides comme les ringes de lactate, les sirops, en tout cas nous sommes à rupture. Nous avons eu seulement acheté 120 Baxter ou alors 120 flacons, mais malheureusement les 120 ont été épuisés et nous sommes dépassés. Ce sont des malades pauvres et parmi lesquels nous avons 5 déplacés. Je pourrais demander à la communauté d'observer certaines mesures barrières et s'il y a un décès au quartier, c'est d'éviter d'enterrer ces malades sans contact avec le personnel soignant qui peuvent assurer un enterrement digne et sécurisé, comme plaidoyer aux ONG qui peuvent penser à ces malades qui constituent une urgence pour nous. Je pourrais vous solliciter à ces ONG et toute autre personne de bonne volonté de venir en aide à cette catégorie de malades qui est en détresse.
Ces derniers appellent la population à respecter les gestes et barrières pour limiter la propagation de cette maladie au sein de la communauté. Ceci passe notamment par la consommation de l'eau bouillie, le lavage régulier des mains avec de l'eau savonneuse et eau chlorée. La population locale doit également éviter tout contact avec une personne malade, éviter les chambres de prière, l'automédication et déférer les cas suspects vers les structures sanitaires, conclut le docteur Bienvenu Tshizungu.
Et dans ce même paquet, la société civile du groupement Peigne en territoire dit du plaide pour la baisse de la facturation dans les structures sanitaires afin de faciliter la prise en charge des malades et d'éviter l'automédication qui s'observe actuellement au sein de la communauté. La baisse de la facturation pourrait favoriser la réduction des cas de choléra en croissance actuellement dans cette partie de la province du Sud qui vous fait savoir la société civile. Lors d'un entretien avec Radio Maindeleo, Amos Ebouyeye, président de cette structure citoyenne, indique que malgré les efforts fournis, les aires de santé du groupement Peigne continue d'enregistrer des cas de choléra, une situation qui a poussé les responsables à revoir les prix des soins à la hausse. Cette situation risque de pousser la population à l'automédication avec toutes les conséquences possibles, entre autres l'aggravation de l'état de santé des patients, les complications médicales ainsi que l'augmentation du taux de mortalité. Il plaide également pour l'implication des responsables sanitaires afin d'éviter les pires, d'autant plus que la population fait face à une situation économique précaire, actuellement aggravée par la guerre à l'est du pays. Amos Bouyeye en parle au micro propos de notre correspondant à Idjui, Richelieu Biamana.
Pour ce qui concerne la facture, là, c'est vraiment très ridicule. J'ai dit, quand la guerre n'avait pas encore arrivé, les gens qui faisaient les soins ambulatoires payaient 5 000. De 5 000 à 6 000, 7 000. Mais aujourd'hui, un enfant de 5 ans paye 9 000. Donc, là où l'enfant a payé 9 000, un adulte paye combien pour les soins ambulatoires? Un observé, quelqu'un qui est observé, dans certaines structures, on paye 90 000, 75 000, dans d'autres structures, c'est 60 000. Nous ne savons pas cette hausse est due à quoi par rapport à la situation socio-économique actuelle de la population. Ni les leaders communautaires ne sont pas impliqués pour discuter cette facture. Vous verrez même, cette même facture n'est pas affichée dans différentes structures. Pourquoi nous demandons à la zone de santé de s'impliquer urgemment pour qu'il y ait une solution à cette question. Quelqu'un qui a manqué même 5 000 francs pour les soins ambulatoires ne saura plus aller dans une structure où il sera observé.
Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndéléo à Bukavu et dans les territoires d'Idjui. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Changeons de chapitre à présent et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, le comité international de la Croix-Rouge CICR a pris en charge 723 blessés de guerre entre janvier et avril 2026 dans les trois hôpitaux qu'il appuie au sud Kivu, à savoir l'hôpital provincial général des références de Bukavu, celui d'Uvira et de Fizi. Ces chiffres ont été communiqués par Valeria Kakavo, chef des opérations au CICR pour le sud Kivu, au cours d'une interview exclusive accordée à Radio Maïndelo le week-end d'Expedicalo.
Depuis décembre 2025, le CICR a triplé le nombre d'hôpitaux qui reçoivent son soutien dans la province en raison de l'intensification des combats et de l'augmentation du nombre des blessés par balle, indique notre source. Le CICR apporte également un appui ponctuel aux structures de santé situées près des lignes de front et qui assurent les premiers soins avant le transfert des blessés vers les hôpitaux, appuyés par l'organisation, ajoute Valeria Kakavo. Dans le cadre du renforcement des capacités, 95 personnels soignants ont été formés depuis le début de l'année 2026, précise notre source. Organisé en partenariat avec l'hôpital provincial général des références de Bukavu et l'université catholique de Bukavu UCB, ces formations portent notamment sur la chirurgie des guerres et la prise en charge des blessés par armes. Malgré ces efforts, le CICR rencontre certaines difficultés dont notamment l'accès limité aux zones affectées par les combats, l'éloignement de certaines localités ainsi que l'impraticabilité des routes. Pour contourner ces défis, Valeria Kakavo indique que le CICR collabore avec les volontaires de la Croix-Rouge pour évacuer les blessés vers des zones accessibles avant leur transfert auprès des structures des soins. Dans ce cadre, 68 blessés ont été évacués des territoires de Calais et Walungu vers Bukavu depuis le début de l'année 2026. Il en parle.
Quelques statistiques qui concernent seulement les 4 premiers mois de l'année 2026. Tout simplement entre les mois de janvier et avril 2026, 723 blessés de guerre ont été pris en charge au sud Kivu dans les 3 hôpitaux appuyés par le CICR. En termes de formation, seulement depuis le début de l'année 2026, nous avons contribué à la formation de 95 personnels soignants. Mais si on regarde l'année passée, l'année 2025, nous avons contribué à la formation de plus de 800 personnels soignants. Il peut s'agir de médecins généralistes ou spécialistes, des infirmiers de bloc opératoire, des techniciens d'anesthésie, ainsi de suite. En termes d'évacuation de blessés pour les territoires de Walungu et de Calais depuis le début de cette année, nous avons contribué à l'évacuation des 68 blessés par arme vers Bukavu.
Enfin, le CICR affirme maintenir un dialogue avec les autorités ainsi qu'avec les différents porteurs d'armes présents dans les zones où l'organisation intervient.
Et l'heure n'est plus au désespoir. La survie de la nation exige un sursaut révolutionnaire civique. Cette recommandation est contenue dans une déclaration de l'Institut Patrice Emery Lumumba en marge de la commémoration le 17 mai en RDC de la journée de la révolution anciennement appelée journée de la libération. Dans cette déclaration, l'Institut Patrice Emery Lumumba considère que le contexte de gouvernance de la RDC caractérisé par la corruption, les détournements et la paupérisation de la population prouve que la libération n'a jamais été effective. Le salut ne viendra ni d'un pouvoir illégitime, ni de la communauté internationale complice, ni des armes dont le peuple est la première victime, insiste cette structure. Yegar, ce qui précède, ces centres d'analyse sur la gouvernance recommandent, entre autres, un sursaut collectif pour barrer la route au projet du changement de la Constitution et l'engagement du peuple en faveur d'un vrai patriotisme qui ne va pas consacrer la balkanisation de la RDC. Écoutons à ce sujet le docteur Joseph Baraka, directeur de l'Institut Patrice Emery Lumumba.
Le premier axe est le devoir de cesser de compter sur l'étranger. Par exemple, la présence prolongée de la MONUSCO, malgré un budget annuel de 1,5 milliard de dollars, n'a produit que l'impuissance. Attendre notre libération de l'extérieur est une aliénation politique. Le deuxième axe est l'exigence de faire barrage aux manipulations constitutionnelles. Nous devons bloquer toute tentative de division visant à consolider un pouvoir illégitime alors que la maison brûle, que la maison Congo s'effondre, que la maison commune est détruite. Partout dans les villes, les villages et les universités, le peuple doit se constituer en comité de vigilance et de relèvement. Et le troisième axe est de s'engager pour un vrai patriotisme. Ce patriotisme exige le refus de la corruption, le sabotage de toute tentative de balkanisation et le choix des dirigeants visionnaires. La vraie révolution, en effet, impose une rupture définitive avec ces systèmes mortifères.
Pour rappel, le 17 mai en RDC est une date qui commémore l'arrivée à Kinshasa en 1997 des troupes de l'Alliance des Forces pour la Libération du Congo AFDL pour mettre fin au règne des 32 ans du président Mobutu Sese Seko. Il a cité civil Sunoyo du quartier Mossala en commune de Kadutu dans la ville de Bukavu dénonce qu'elle qualifie des relâchements dans l'évacuation des déchets sur les espaces de transit dans ces quartiers après les travaux communautaires communément appelés Salongo. À en croire notre source, les organisations impliquées dans l'évacuation des déchets ne jouent pas actuellement leur rôle. Elle fait état des déchets abandonnés sur la chaussée, pourtant la population était déjà habituée à la gestion de ces déchets. La société civile Sunoyo du quartier Mossala estime que ces déchets abandonnés sur la chaussée peuvent être à la base de certaines maladies dans cette entité. La société civile lance un appel aux associations chargées de l'évacuation des déchets à reprendre leurs tâches pour la propriété du quartier. Le président de la société civile Sunoyo du quartier Mossala, Maïgal Maïcha, en parle.
C'est avec étonnement que nous constatons qu'il y a un relâchement dans l'évacuation des déchets sur les dépotoirs de transit. Les ménages déposent les déchets chaque samedi. Malheureusement, les déchets demeurent sur les dépotoirs de transit avec tous les dangers qu'il y a, des pollutions, des maladies. Et puis c'est dans le milieu de la population. Si vous le constatez, c'est depuis un temps qu'on n'évacue plus presque. La population qui s'était déjà habituée à la bonne gestion des déchets risque de régresser, risque de perdre cette habitude. Cette situation, nous demandons vraiment que les organisations puissent se pencher et revenir à la normale, faire comme les choses se faisaient avant.
Et avant la deuxième partie de cette édition du journal consacré au sport et à la revue de presse, outiller les services chargés de la santé de la mère et de l'enfant pour qu'ils aient des compétences pratiques et communicationnelles, c'est l'un des objectifs de la formation portant sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ceci en vue de réduire les taux de morbidité et de mortalité maternelle et néonatale dans la province du Sud Kivu, Alain Kabika.
Selon le docteur Émile Mapatano, médecin gynécologue à l'hôpital général de référence de Panzi, cette formation est nécessaire car les médecins sont censés connaître les mesures nécessaires pour venir en aide à la mère et à son bébé, même en cas de complications. Il estime également que les femmes enceintes devraient être proches des structures sanitaires et accoucher dans les hôpitaux où les services sanitaires sont qualifiés et compétents. Il en parle dans cet élément.
On est une équipe vraiment bien outillée ou bien une équipe multidisciplinaire. Des gynécologues, des praticiens, des pédiatres. C'est cette équipe qui a été là au profit des prestataires qui sont venus des structures. Là, nous ne pouvons jamais oublier de remercier la Fondation Panzi qui a fait à ce que cette formation soit une réussite.
Les prestataires de santé qui ont participé à cette formation remercient la Fondation Panzi pour cette initiative qui leur a rappelé des notions importantes pour leur travail de tous les jours. L'un de Chizungu Nzigire, sage-femme à l'hôpital de Panzi, en parle.
Au début, on nous avait présenté comment notre pays souffre à cause des décès maternels. Maintenant, on nous a appris qu'il faut vraiment que nous luttions, nous, sages-femmes, pour sauver cette situation. Donc, lutter contre la mort maternelle et les décès néonatales. Et à ce moment-là, on nous a montré comment sauver les bébés qui viennent de naître et comment les réanimer pour pour qu'il puisse vraiment vivre. Même la maman aussi qui veut donner la vie, comment on va la suivre, comment on va les mettre vraiment dans une ambiance pour qu'elle puisse accoucher sans problème.
Signalons que cette formation a été organisée dans le cadre du programme Uni pour l'égalité du genre dans la province du Sud-Kivu, en partenariat avec la Fondation Panzi, avec l'appui de l'Union européenne.
Merci de nous suivre en direct au siège de la FECOFA à Kinshasa sur le www.radiomandela.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maendeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
La liste des léopards convoqués pour la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée ce lundi 18 mai 2026 à 15h heure de Bukavu. Elle sera publiée par le sélectionneur national Sébastien Desabre sur les canaux officiels de la Fédération Congolaise de Football, association FECOFA. L'attente est grande pour le public congolais qui veut connaître la liste des 26 léopards appelés à disputer la compétition internationale à moins d'un mois de son coup d'envoi. Les habitués de la sélection sont entendus, mais certains nouveaux noms pourraient apparaître pour la première fois sur la liste de l'équipe nationale de la RD. Après publication de cette liste, Sébastien Desabre sera en conférence de presse de début du stage le lundi 25 mai prochain à 10h au siège de la FECOFA. Les stages proprement dit démarrent le 26 mai avec une séance d'entraînement ouverte au public qui se tiendra au stade Tarafael de Kinshasa pour permettre au peuple de communier avec son équipe. La Coupe du Monde démarre le 11 juin prochain. Elle se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La RDC est logée à Houston aux États-Unis dans les groupes K avec le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Les Léopards jouent leur premier match avec le Portugal le 17 juin 2026.
La revue de presse. Radio Maïndéléo Capte vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Myriam Moufano, les problèmes d'insalubrité et de gouvernance observés dans les marchés des cassiers situés dans les groupements des Moudousa en territoire des Cabarets et l'occupation des maisons et champs des déplacés de guerre à Ouvira font partie des sujets commentés par la presse le week-end.
Débutons cette revue de presse par cabaretactu.info qui alerte sur les problèmes d'insalubrité et de gouvernance au marché des Cassiers, situé dans le groupement des Moudous en territoire des Cabarets. Malgré plus de 25 ans d'existence, ces marchés ruraux ne disposent toujours pas des latrines publiques ni d'infrastructures adaptées pour les commerçants et les clients. Selon plusieurs témoignages recueillis par ces médias, le vendeur paye régulièrement différentes taxes mais travaille dans des conditions difficiles, surtout pendant la saison pluvieuse. La nouvelle dynamique de la société civile approchée par cabaretactu.info dénonce également une mauvaise organisation dans la gestion du marché avec plusieurs structures administratives qui créent la confusion et un manque de transparence dans la gestion des recettes. Cette dernière demande une intervention urgente des autorités territoriales. Elle recommande par ailleurs la construction des latrines publiques, la mise en place d'une gestion unique du marché et une meilleure mobilisation des recettes afin d'améliorer les conditions sanitaires et organisationnelle de ces marchés fréquentés chaque jour par des centaines de personnes, conclut ce média. De son côté, les souverains libres indiquent que des cadres de base de la commune du Banda et des journalistes de Bukavu se sont engagés à renforcer la lutte contre l'insécurité. Cet engagement a été pris lors d'une table ronde de 2 jours tenue la semaine dernière au centre d'accueil protestant d'Engouba à Bukavu. Les participants ont décidé de dénoncer les cas suspects d'insécurité, de renforcer la collaboration avec les services de sécurité et de redynamiser le forum des quartiers. Ils souhaitent également mieux surveiller les mouvements des habitants dans les avenues afin de prévenir les actes criminels. Pour Dieudonné Bahala, chef d'avenue Consnel 2, approché par ces médias, il est nécessaire de mutualiser les efforts pour lutter contre l'insécurité. L'association Vidiana Shuja soutient aussi ces résolutions et rappelle les rôles importants des jeunes dans la sécurité. À la fin des assises, les participants ont signé un acte d'engagement pour appliquer les recommandations issues de cette rencontre, soutenue par la DDC, conclut les souverains libres. Bouclons cette revue de presse par kivutimes.com qui écrit qu'à Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, les retours de déplacés des guerres est compliqué par les conflits fonciers. Plusieurs familles retrouvent leurs maisons, terres aux champs occupées par d'autres personnes, ce qui ravive des tensions sociales dans plusieurs villages et quartiers périphériques. Deux acteurs communautaires craignent que ces différends provoquent de nouveaux conflits. Emmanuel Abedi, activiste de la société civile, contacté par ces médias, appelle à privilégier la médiation communautaire et le vivre ensemble afin de garantir des retours pacifiques. De son côté, Alfred Wakanda souligne aussi que la destruction des registres fonciers complique la preuve des propriétés pour de nombreuses familles. Pour Maître Ghislain Baraïga Kabamba, ces litiges fonciers menacent la cohésion sociale à Uvira. Il explique que plusieurs biens abandonnés pendant la guerre ont été occupés par des civils, de déplacés ou de militaires. Les habitants demandent ainsi aux autorités de renforcer les mécanismes de règlement des conflits et de protéger les droits des déplacés retournés, conclut ce média.
Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Un cas d'Ebola est confirmé dans la ville de Goma depuis hier dimanche 17 mai 2026, selon le communiqué du gouverneur du Nord Kivu sous la FCM23 rendu public. Du coup, les frontières avec les Rwandais dans cette partie du pays ont été fermées sur ordre des autorités rwandaises. Vous avez eu un dossier complet dans cette édition du journal. Et le CICR a pris en charge 723 blessés de guerre entre janvier et avril 2026 dans les trois hôpitaux qu'il appuie au sud Kivu. Mais depuis décembre 2025, le nombre d'hôpitaux qui reçoivent ces soutiens a triplé suite à l'intensification des combats et l'augmentation du nombre de blessés par balle, nous a dit la chef des opérations au CICR pour le sud Kivu. Et en sport, Coupe du Monde 2026, les Léopards convoqués pour disputer cette compétition seront connus ce lundi 18 mai à travers les canaux officiels de la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA. La mise en onde était celle d'Alain Zahar à la présentation Héritier Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur les www.radiomaindeleo.org. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.